Bonjour à tous. Amen. Aujourd'hui, le pasteur est parti à Gatineau, toujours à l'œuvre du Seigneur. Vous savez qu'il a, en plus de ses responsabilités à l'église locale, mais il a des responsabilités aussi pour conseiller, pour accompagner d'autres églises qui sont en implantation. Alors, si vous ne le voyez pas ici, il n'est pas chez lui. Il est effectivement dans une église pour l'œuvre du Seigneur. Alors, aujourd'hui, j'ai voulu encore parler du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le thème qui revient et qui reviendra toujours. Parce que l'Église n'est pas une entreprise comme celles que nous connaissons, qui peuvent être bâties sur base d'argent, de certaines compétences. L'Église, c'est une action divine, c'est le fruit du Saint-Esprit. Amen. Alors, à chaque fois, j'aime comment nous parlons beaucoup plus du Saint-Esprit. Je me rappelle qu'il y a de le temps où c'était encore peut-être on entendait moins souvent le mot Saint-Esprit dans l'Église. Oui, à force de le dire et aussi à se pratiquer, ça finira à produire des fruits. Je suis convaincu. Amen. Alors aujourd'hui, je vais toujours aborder dans ce sens, voir avec vous le rôle du Saint-Esprit dans le développement de l'Église. Quand je dis le développement, ce n'est pas le développement financier, c'est toujours le développement spirituel, c'est le développement dans le sens de la maturité spirituelle. C'est dans ce sens, ce n'est pas le développement dans le cadre financier ou d'autres choses. Alors, nous allons nous servir des Écritures que nous allons trouver dans les Actes des Apôtres. J'aimerais que quelqu'un nous lise ce texte d'Actes 2, versets 42 à 47. Mais en général, nous allons nous baser sur les deux chapitres des Actes, chapitre 2 et 3. C'est les deux chapitres que nous allons tirer beaucoup plus d'enseignements. Mais quelqu'un peut nous lire seulement une partie que j'ai choisie qui va être comme une lecture du jour.
Oui, nous lisons Actes 2, versets 42 à 47. Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Tout le monde était très impressionné, car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre tous, selon les besoins de chacun. Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie. Avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier, les faits leur étaient favorables. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. Amen.
Amen. C'est un passage que j'ai choisi, mais comme je vous l'ai dit, nous allons essayer de parcourir les deux chapitres, car les deux chapitres, nous voyons la naissance de l'Église depuis le début, et nous voyons comment ça s'était agrandi tout au long, mais sous l'action du Saint-Esprit. Il n'y a pas eu aucun investissement de l'extérieur, il n'y a pas eu n'importe quel financement, mais c'était l'action du Saint-Esprit. Et nous allons voir comment l'Église a grandi à partir de 12 personnes qui étaient moins éduquées, je m'excuse de le dire, qui étaient moins formées, les artisans locaux, mais qui a touché beaucoup plus de monde parce qu'ils avaient accepté que le Saint-Esprit œuvre en eux. En général, on vous donne toujours un aperçu général du livre. Oui, on dit que le livre des Actes des Apôtres n'est pas... Bon, oui, on trouve les histoires des premiers chrétiens, mais il est avant tout l'histoire de l'action du Saint-Esprit dans et à travers l'Église. C'est ça, normalement, la base, si je veux dire, le grand thème de son livre, des Actes des Apôtres, c'est l'action du Saint-Esprit. Et d'ailleurs, beaucoup de théologiens, beaucoup de savants se mettent d'accord pour appeler ce livre les Actes du Saint-Esprit, au lieu de dire les Actes des Apôtres. Il n'y a pas de problème, mais pour vous dire que tout ce que les apôtres faisaient, ce n'était pas par eux-mêmes. Ils étaient animés par le Saint-Esprit. Alors, dans ces deux chapitres 2 et 3, nous allons voir trois grands événements, et à savoir la naissance visible de l'Église. Avant, Jésus faisait ses voyages avec les disciples. Oui, les gens se convertissaient, mais ils n'avaient eu jamais encore la naissance de l'Église. L'Église est née le jour de la Pentecôte, le jour où le Saint-Esprit est venu. Et nous allons voir aussi sa croissance et aussi voir son impact, l'impact du Saint-Esprit dans la société. Parce que le Saint-Esprit arrive dans la communauté, la communauté ne reste pas de même. Il y a des choses visibles qui se passent. Il y a, oui, la communauté qui s'agrandit, mais il y a aussi la vie, les vies qui sont transformées. Nous allons voir comment les gens étaient transformés de façon spectaculaire. Nous allons aussi voir comment beaucoup des âmes ont été attirés par la puissance du Saint-Esprit. Ils ont été attirés vers le Seigneur. C'est ça, c'est les trois points, les grands points que nous allons quand même voir dans ces deux chapitres, sinon dans ce petit partage d'aujourd'hui. Alors, premièrement, nous voyons l'Église qui naît. Le jour de la Pentecôte, oui, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, comme nous le lisons dans les Actes 2, chapitres 1 à 4. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Il faut se rappeler que quelque temps avant la venue du Saint-Esprit, les disciples étaient là. Oui, ils manifestaient le zèle de vraiment de servir Dieu parce qu'ils suivaient Jésus tous les jours, ils ne l'abandonnaient pas, même ils juraient qu'ils ne l'abandonneraient pas tant qu'il est encore sur terre. Parce que rappelez-vous que Jésus, de temps en temps, leur demandait, parce qu'il y a des fois. De temps en temps, Jésus prêchait ou bien pointait du doigt dans la foule. Il y a beaucoup de gens qui se retiraient parce qu'ils se sentaient menacés. Et de temps en temps, Jésus demandait à ses disciples s'ils veulent aussi partir. Mais vous savez comment ils répondaient. À qui irions-nous? Parce qu'ils avaient trouvé comme tout en Jésus. Donc, ils avaient cette volonté de rester avec Jésus. Mais il leur manquait quelque chose. Jésus savait que oui, un jour, ils vont l'abandonner. Parce qu'il leur manquait quelque chose. Mais Jésus ne les condamnait pas. Même quand, vous savez, quand on est venu prendre Jésus, et les autres se sont enfuis, se sont dispersés, mais de retour, Jésus ne les a pas condamnés. Il est parti encore les chercher parce qu'il savait qu'il leur manquait quelque chose de très important. Oui, d'arracher, pour nous montrer que d'arracher, on ne peut rien faire. On peut utiliser tous nos moyens, on peut utiliser toutes nos connaissances, mais dans le cadre spirituel, dans le cadre d'agrandir l'Église, on ne peut rien faire de nous-mêmes. Alors, ces disciples, bien sûr, étaient obéissants, mais ils étaient limités, comme je viens de vous le dire. Mais ils avaient une promesse. Oui, ils avaient une promesse dans Acte 1, chapitre 1, verset 8. Jésus leur avait promis une puissance. Amen. Une puissance qui les rendra capables maintenant de témoigner sans peur. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. La naissance de l'Église n'est pas une action humaine, comme je viens de vous le dire, mais l'accomplissement, ça a été l'accomplissement d'une promesse divine. Ça a été promis bien avant le jour de la Pentecôte. Ça a été maintenant l'accomplissement de cette promesse. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'Église vivante. Dans ce petit point, j'aimerais justement vous montrer que c'est le Saint-Esprit qui a donné naissance à l'Église. Et que bien sûr, nous, en tant qu'Église, corps de Christ, nous ne pouvons rien faire si le Saint-Esprit n'est pas en nous, si le Saint-Esprit ne guide pas nos activités, si le Saint-Esprit ne contrôle pas tout. Oui, on peut faire des choses, mais par nous-mêmes, nous aurons toujours des limitations, comme nous venons de le voir avec les disciples. Oui, cela n'empêche pas que peut-être on peut se tromper, dire que oui, si nous voyons comme on dit des méga-churches, peut-être on peut se tromper, dire que oui, forcément le Saint-Esprit est là parce qu'ils ont grandi. Ce n'est pas ça le signe. Avoir un grand nombre ne signifie pas forcément que aussi le Saint-Esprit est là. Parce que comme je vous l'ai dit, il y a malheureusement les églises qui sont fondées sur d'autres bases, sur les bases du monde, sur bases financières. Oui, quelqu'un peut financer une église pour une raison que j'ignore. S'il a de l'argent, on peut construire une bâtisse, on peut recruter des personnes éloquentes, on peut recruter des théologiens, ils sont là, ils sont beaucoup. Et il y a beaucoup de monde qui aime écouter les paroles bon, d'intelligence, qui aime les personnes éloquents qui peuvent venir quand même les suivre. Il y a les gens qui aiment la musique. Si tu bâtis tu bâtis ton église, je dis le bâtiment, et tu mets des belles musiques. Aujourd'hui même, on recrute des bons musiciens qu'on connaît pour attirer beaucoup plus de monde. Je vous jure que si on a une capacité, il y a une personne qu'on peut recruter dans notre église Et la semaine prochaine, vous voyez comment l'église est remplie. Il y a des mots déjà comme ça. Parce que si il suffit seulement d'écrire sur les médias, les réseaux sociaux, dire que telle personne, telle célébrité sont là au Carrefour, c'est à vous donner l'adresse. Dimanche, il est là, vous montrer les heures de rencontre et l'église est remplie. Mais cette église est bâtie sur d'autres bases. Ce n'est pas sur base du Saint-Esprit. Ce n'est pas que, je sais que nous, ce n'est pas que ce que nous souhaitons. Nous souhaitons que nous bâtissons, mais sur base du Saint-Esprit. Et c'est pour cela que nous revenons, nous parlons encore du Saint-Esprit. Parce que nous savons que en dehors du Saint-Esprit, nos fatigues, nos investissements, nos temps seront comme perdus. L'autre point, c'est que après la naissance de l'Église par le Saint-Esprit a donné une puissance à l'Église. Des fois, selon les enseignements, les gens confondent beaucoup la puissance et le Saint-Esprit. Avant, on pouvait, je me rappelle moi-même, à un moment donné, si on pouvait me demander la définition du Saint-Esprit, j'allais commencer que c'est en disant que c'est une puissance, parce que c'est ça qu'on m'avait appris, que le Saint-Esprit est une puissance, et on continue. Parce que nous avons tendance à chosifier le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une chose, c'est une personne. Pour nous, les méthodistes, avec, je sais, beaucoup de chrétiens qui croient à la Trinité, nous savons que Dieu est unique, mais il se manifeste en trois personnages, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Qui veut dire que le Saint-Esprit aussi, c'est Dieu en nous. En fait, c'est Dieu qui vient vivre avec nous sous une autre forme. Amen. Alors, le Saint-Esprit donne la puissance à l'Église. Vous voyez au verset 14 du chapitre 2, Pierre, bien sûr, c'est après cet événement du Saint-Esprit, les choses se sont passées, les gens étaient venus de gauche à droite pour voir qu'est-ce qui se passe ici dans cette salle. Et maintenant, Pierre, qui quelques jours avant, qui était fui, qui était disparu, parce que rappelez-vous que il a suivi quand même Jésus pas à pas, mais à un moment donné, et quand les menaces se sont augmentées à lui, il a fui aussi. Souvenez-vous que c'est le même Pierre qui a nié Jésus, qui a dit vraiment qu'il n'a jamais connu Jésus. Mais cette fois-ci, le Saint-Esprit lui donne une puissance. Et après cet événement, les gens étaient confus. Certains disaient, mais apparemment, la façon dont ces gens se comportent, c'est comme si ils ont beaucoup bu, ils sont tombés ivres. Donc, c'était vraiment, ils étaient mêlés parce que c'était quelque chose pas ordinaire. Du moins, pas ordinaire dans leur milieu. Mais l'apôtre Pierre, maintenant, avec les 11, il se met debout. Je vais vous dire, quand la puissance du Saint-Esprit vient, il chasse la peur. Oui, des fois, nous avons la peur d'affronter les gens, de parler aux gens, parce que nous n'avons pas laissé vraiment le Saint-Esprit agir. Oui, si j'ai cette faiblesse, je sais que oui, c'est que je vais aller moi-même, Je vais expliquer les choses par moi-même et j'ai peur d'avoir une certaine limitation parce que je suis limité en quelque part. Là, je ne veux pas m'avancer. Mais quand on est poussé par la puissance du Saint-Esprit, tu ne crées personne. L'apôtre Pierre, il n'a jamais, la Bible ne nous dit pas qu'il a fréquenté une école, bon, école de la loi. Il n'a pas été pharisien, il n'a pas été scribe, il n'a pas été. Donc, il y avait quand même déjà célèbre que la Bible nomme, qui était connu pour une certaine compétence. Seulement l'apôtre Pierre était compétent dans la pêche. Mais cette fois-là, ce n'était pas la compétence. La pêche, ce n'était pas une compétence qu'il allait utiliser dans cette situation. Mais regardez que maintenant, celui qui fuyait, celui qui avait peur, il se tenait debout, il commence à affronter maintenant les gens qui autrefois y fuyaient. Amen. Vous comprenez la puissance. La puissance, c'est comme si ce n'était pas Pierre d'avant. C'était le Saint-Esprit, mais qui était habillé Pierre. Amen. C'est le Saint-Esprit qui parlait, mais qui s'était habillé Pierre. Et les gens voyaient Pierre, mais c'est le Saint-Esprit qui parlait. Regardez maintenant. Pierre, nous allons le voir. Il a tenu un discours très, qui a impacté les gens. J'essaie de situer ou bien de décrire Pierre comme, imaginez-vous, chez vous, vous avez quand même des lacs ou bien des fleuves où il y a des pêcheurs, des gens qui pêchent des poissons. Et on connaît des fois les gens quand même qui sont compétents. J'imagine que l'apôtre Pierre était connu dans son cadre. Et ces gens-là, ce n'est pas les gens qu'on peut inviter dans une cérémonie pour tenir une parole. Ce n'est pas les orateurs qu'on peut vraiment confier à une chose. Mais cette fois, c'est Pierre. Ce Pierre-là. Mais qui était transformé par le Saint-Esprit, amen. Il se tenait debout devant la foule où il y avait les scribes, il y avait les gens qui connaissaient la loi, qui connaissaient la Bible, qui connaissaient toute la loi mosaïque vraiment partait de A à Z. C'est maintenant Pierre qui est devant cette foule. Pierre, tu avais marre, j'ai dit, tu avais renié. Jésus, bien sûr, par le Père, devient un prédicateur courageux. Ce changement radical n'est pas le fruit d'un entraînement humain, mais c'est la plénitude du Saint-Esprit. Je l'ai dit. Pierre, pour un petit moment, n'a pas été à l'école. Et les gens même se demandaient souvent quand ils voyaient l'oser, le courage. Ils se demandaient, mais ces gens-là, on reconnaît. Ils sont nés chez nous, terre, et ils viennent de tel quartier. Il n'a pas été à l'école. Mais voyez, regardez comment ils parlent. Et souvent, d'autres répondaient, non, ils ont vécu avec Jésus. Ils ont marché avec Jésus. Amen. C'est intéressant de voir comment, dans un petit moment, Pierre a été transformé par une autre personne, que les gens n'arrivaient pas à comprendre pourquoi. Les gens n'arrivaient pas à le saisir parce qu'il avait une transformation totale. Cette fois-là, il n'avait plus peur. Voilà ce que le Saint-Esprit fait. Il donne, quand il est arrivé, il a donné la puissance. Il a donné aussi une parole inspirée. Parce que dans le discours de Pierre, il n'a pas raconté des histoires de pêche, Il n'a pas raconté n'importe quoi. Dans son discours, il se basait sur les Écritures. Les Écritures même des prophètes qui ont vécu avant lui, très loin avant. Il citait Joël et les psaumes. Donc, c'est parce que c'est le Saint-Esprit qui parlait à lui. Sinon, je ne pense pas que Pierre, avec sa connaissance, il allait quand même. Si vous lisez le discours, vous allez voir comment il n'avait pas préparé. Il n'avait pas un document même. Parce qu'il n'avait pas préparé que cela allait arriver comme ça. Mais parce que le Saint-Esprit agissait en ce moment, il parlait comme s'il lisait quelque part. Il lisait une note qu'il a déjà prise. Alors, dans son discours, il était basé sur les Écritures. Et la personne de Jésus-Christ parlait beaucoup de Jésus, disait la personne que vous avez tuée. Et puis, il faisait appel à la repentance. Et les gens qui ont entendu le discours, ils eurent le cœur vivement touché. Je vous le dis, je vais vous dire une chose. On peut être éloquent, vraiment éloquent. Mais ton message ne peut pas transformer un voleur. Il ne peut pas transformer une prostituée. Oui, on va t'applaudir que tu as bien, je dirais, tu as passé le vrai message. Oui, déjà, tu vois que les gens sont émus, mais c'est superficiel. Mais le message qui était inspiré, la parole qui était inspirée, qui est reposée aux Écritures, à la personne de Jésus et à l'appel à la repentance, voilà ce qu'il a fait. Les gens étaient choqués. Quand je préparais, j'ai dit, mais il nous manque quelque chose. Vous savez, dans beaucoup des églises, surtout là où je suis grandi, le pasteur prêche à Après, il va dire, ah, si, il y a quelqu'un qui a été touché. Donc, on commence à négocier quand même pour que les gens viennent. Mais si vous lisez le discours de Pierre, c'est l'audience qui ont demandé. Ils se sont demandé, mais qu'est-ce qu'on va faire? Non, non, c'est pas. Pierre n'a pas négocié. Non, ils se sont demandé. Mais parce que la Bible nous dit qu'ils étaient choqués. Ils étaient choqués. Ils n'avaient plus d'habitude des pharisiens. Ils avaient toujours des petits, je dirais, comment dirais-je? Ils avaient toujours quelque chose à répondre, à piéger. Mais tu as dit ça, mais la loi dit ça. Mais cette fois-là, c'était fini. Ils étaient là aussi. Parmi eux, ils demandaient, mais frères, que pouvons-nous faire? Parce que c'était une parole inspirée. Le Saint-Esprit, quand il arrive, il nous donne des paroles convaincantes. Des paroles convaincantes. Quand nous allons nous adresser aux gens, on n'aura pas beaucoup à expliquer. On ne va pas aller négocier. Parce que la parole, déjà, c'est Jésus déjà qui parle de lui-même. Et je ne pense pas qu'il y a une personne qui peut confronter Jésus-Christ. Alors, quand le Saint-Esprit agit, la parole touche le cœur et produit la conviction du péché. Oui, les gens vont se repentir sans que on commence à leur dire, sans qu'on mette des formules. Dans le temps, je m'excuse de donner je donne les exemples que je connais parce que il y a une église qui a comme sa façon de faire. On sait que les gens chez nous, en plus, c'est quand même une grande foule. Alors, pour les gens, quand tu fais appel à la repentance, Les gens, oui, peuvent quand même avoir une culpabilité, mais ils vont avoir des fois la peur des gens qui sont là. Les gens, je dis les pasteurs, ils ont constaté ça. Ils ont dit, OK, on ne va pas demander aux gens de se lever. Parce que si tu te lèves, tout le monde va, disons, tout le monde va te voir de qu'est-ce que tu as fait. Donc, on va commencer à te soupçonner. Et ils ont dit, ils ont commencé, ils ont changé la méthode. Aujourd'hui, ils disent, ah, si quelqu'un a été touché, qu'il lève la main. Alors, ça, c'est quand même, on peut dire que c'est facile. Lever la main, mais quelqu'un de derrière ne va pas te trouver. C'est différent quand même de se lever. Et quand il lève la main maintenant, il dit, ah, pour ceux qui ont levé leur main, mettez-vous debout. Parce que tu ne vas pas maintenant descendre ta main encore. Mais tu te lèves. Après, ils vont dire, alors vous tous qui êtes debout, venez devant. Donc, vous comprenez, on a mis beaucoup, beaucoup de moyens de. Non, mais ce n'est pas comme ça. Quand le Saint-Esprit travaille, les hommes pleurent comme des enfants. On n'a pas besoin de. Donc ça montre comment nous faisons par nous-mêmes. Donc on essaie de quand même d'utiliser notre propre force. Oui, des fois nous pensons que ça a marché, mais il manque quelque chose. Mais cette fois-là, nous voyons vraiment comment avec l'Église primitive qui avait accepté le Saint-Esprit qui travaille en eux, comment les choses sont avancées sans se fatiguer. Alors, une troisième chose, quand l'Église est née du Saint-Esprit, c'est la croissance spectaculaire. Vous savez, la Bible nous dit que dans Actes 2, 41, il dit qu'environ 3 000 âmes furent ajoutées ce jour-là. Imaginez. 3 000 hommes. Ici, ça fait, malheureusement, ça fait 30 ans, nous voici. Mais en une journée, 3 000 hommes, si l'apôtre Paul avait une église vraiment, il allait directement compter, OK, il a une église de 3 000 hommes. À une journée. Quand l'Église accepte ou bien fonctionne sous l'action du Saint-Esprit, il y a une croissance spectaculaire. Oui, ça n'empêche pas que, comme je vous l'ai dit, il y a d'autres moyens de le faire, mais qui sont vraiment superficiels, qui ne tiennent pas longtemps. Mais cette fois-là, c'est des gens qui sont transformés. Il n'y avait même pas la musique. Hein? Il n'y avait pas la musique à cette époque-là. Il n'y a pas de piano là. Parce qu'aujourd'hui, oui, on va mettre une musique douce pour que ceux qui aiment peut-être la musique douce puissent méditer un peu. Non, il n'y avait rien. Rien que la parole. Amen. Bon, je n'ignore pas l'importance de tout ça. Mais pour vous dire que il n'y avait pas d'infrastructure. Et dans l'église, c'est ça l'église. L'église n'est pas comme on aimait le dire, ce n'est pas le bâtiment en premier lieu. L'église, c'est le Christ qui unit les gens. C'est les gens qui sont unis par l'action du Saint-Esprit. Alors, deuxième point. Nous avons dit à peu près 4 points. Troisième point, bon, j'ai quand même parlé de ça, c'est que le Saint-Esprit forme une communauté transformée. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Écoute, si ce n'est pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas vendre ta parcelle et l'amener, partager, la Bible nous dit, selon le besoin de tout et chacun. Donc, il vivait comme s'il ne possédait, il ne possédait rien sur terre. Et il travaillait seulement pour eux. C'était comme si, vous savez, nous, des fois, on projette trop loin, dans le futur. C'est pour cela que les Gisley et les autres viennent pour nous vendre des assurances, vie là. Des assurances. Parce que nous projetons trop loin. Mais eux, vraiment, on dirait que le futur n'était pas à eux. C'était le présent. Parce que si quelqu'un vend sa parcelle, tu ne vas pas me dire qu'il passe à demain. Non. Il ne passe pas à demain. Il passe seulement. Donc, c'est comme ils étaient arrivés à année où on ne peut pas imaginer. Je ne nous dis pas qu'on doit vendre, non, mais ça montre combien on doit aussi, oui, on doit partager. On doit partager, on doit faire à ce que personne ne manque de rien si vraiment nous sommes unis par le Saint-Esprit. Donc, c'est comme ça que cette communauté vivait. Il y avait, et pourtant, avant l'arrivée du Saint-Esprit, ces gens-là vivaient, ils cohabitaient. Ils se connaissaient, mais personne n'avait eu cette idée oui, de vivre ensemble, de vendre, de partager. Non. Ça a été les actions du Saint-Esprit qui avaient transformé leur compréhension et ils ont résolu, ils ont arrivé à cette résolution. Alors, l'Église était enracinée dans la doctrine de la vérité. Le Saint-Esprit conduit l'Église vers la vérité. Et Jésus l'a dit dans Jean 16, 13, il a dit, quand le consolateur sera venu, c'est le Saint-Esprit. Si vous lisez la Bible, vous allez voir que le Saint-Esprit, des fois, on l'appelle la Seigneur, il est le consolateur, il porte beaucoup, bon, plusieurs noms. Quand le consolateur sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. C'est le Saint-Esprit qui peut nous conduire à la vérité. Ce n'est pas les hommes qui peuvent nous conduire à la vérité. Je vous le dis, si vous suivez les hommes, vous vous trompez, mais c'est là le Saint-Esprit qui peut nous conduire à la vérité. L'Église qui grandit seulement est une Église enseigné par le Saint-Esprit. Le sous-point, là où le Saint-Esprit réside, il y a une puissance, mais qui glorifie Jésus. Le miracle n'attire pas la gloire sur les apôtres, mais sur Christ. C'est par la foi en son nom que cet homme a été affermi. Ça, c'est un message que les apôtres lancent. Parce que quand ils ont guéri la personne, c'est comme si la foule était émerveillée. Ils voulaient quand même les glorifier. Oh, vous savez, mais des fois, malheureusement, c'est ça que nous vivons. Vous allez voir beaucoup dans beaucoup d'églises, quand quelqu'un a un don de prophétie, ou bien je ne sais pas, il peut être sorcier même, mais s'il a cette soin de sa prophétie, ou bien une certaine, un certain don, je dis soin de ça, ce n'est pas que ça existe. Mais à un moment donné, la façon dont ça s'utilise, c'est ça qui me rend mal à l'aise. Mais vous allez voir que les gens, sur les affiches, il commence à dire, venez, il y aura tel, il y aura tel, il va guérir, il va guérir les malades, il va guérir, il va beaucoup, beaucoup. Je pense que vous connaissez, c'est tout nous, chez nous, ici je ne vois pas souvent, je ne sais pas si, mais je sais que vous comprenez ce que je dis. Et c'est comme si les gens viennent voir la personne. Et quand quelque chose se passe, et vous allez les entendre dire même, j'ai guéri tel, j'ai guéri tel, j'ai guéri quelqu'un qui avait des sida. C'est le langage comme ça. Donc, c'est comme si la gloire, c'est à eux. Mais les apôtres, la puissance qu'ils avaient été donnée, c'était pas une gloire, c'était pas pour se glorifier, mais c'était pour la gloire de Jésus. C'est pour cela que Pierre a dit non, 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 non. Il a vu comment la foule commençait à les glorifier. Il a dit non, 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 non. Est-ce que vous pensez que c'est par nous? Non, c'est pas nous, c'est pas nous. C'est pas nous. Il a évité que même demain, les gens commencent à amener des offrandes chez nous. Non, 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 non. Et aujourd'hui, la majorité vivent comme ça. Tu pries à quelqu'un, il est guéri, tu veux qu'il t'apporte des offres. Ou bien même, il y en a qui mettent les prix même avant faire la prière. Les prix, j'ai ri, je sais que ça existe, mais j'ai ri dernièrement sur Facebook, il y avait une église comme ça, il dit, il catégorisait les requêtes de prière. Pour telle requête, 50 dollars, 100 dollars, donc un échéro. Ce n'est pas, des fois, c'est des exagérations, mais ça existe. Je sais, moi, ce que je vous dis, je connais, je peux te dire les tels faits, on connaît. Mais ça, ce n'est pas les actions qui sont guidées par le Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit est là, tu sais qu'il t'a donné gratuitement. Même ce que tu fais là, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas toi qui as fait. C'est que Dieu t'a utilisé. Il peut utiliser quelqu'un d'autre. Tu as eu la chance. Tu devrais même, je dirais, t'humilier devant le Seigneur et dire merci Seigneur. Tu m'as utilisé. Tu pourrais utiliser quelqu'un d'autre. Alors là où le Saint-Esprit est là. Il donne la puissance, mais la puissance qui doit le glorifier et non glorifier les gens. Alors, il y a des témoignages qui ouvrent le cœur. La guérison de la personne attire la foule et prépare un nouveau message de repentance. Et je dirais, là où le Saint-Esprit est. Il occasionne, il donne des opportunités. Des fois, nous demandons comment on va faire, comment on va procéder pour faire l'évangélisation. Mais si nous laissons le Saint-Esprit, il va occasionner des choses. Amen. Parce que vous voyez, c'est comme si Pierre et Jean n'avaient pas planifié qu'ils vont aller au temple. Et puis ils vont rencontrer quelqu'un, ils vont. Non. Mais Jésus avait placé la personne là-bas. Et Pierre et Jean sont venus. Ils ont prié. Et après ce qui s'est passé, et la foule est là, ça a occasionné. Ça a permis des apôtres de passer le message. Amen. Le message qui ouvre le cœur des gens. Parce qu'à chaque fois, l'apôtre Paul. Son message reposait sur trois choses, la parole, les écritures et la personne de Jésus et la repentance. C'est ça, c'était le contenu de son message. Alors, je vois que le temps avance. Maintenant, en tant qu'Église qui cherchons à grandir, nous, toujours dans le comité, et il n'y a pas une seule fois où nous nous réunissons et que nous ne parlons pas comment on peut faire pour grandir notre église. Maintenant, face ou bien à l'exemple de ce que nous venons voir, comment l'Église est née, comment il a été et il a grandi sous l'action du Saint-Esprit, comment le nombre, en termes de nombre, il grandissait, en termes je veux dire, en termes de communion. Oui, ça grandissait parce que le fait que les gens apportaient des choses pour partager, ça montre quand même une sorte de cohésion qu'on ne peut pas trouver nulle part ailleurs. Maintenant, c'est quoi notre réaction face à ce que nous venons de voir, face vis-à-vis au Saint-Esprit? Car le Saint-Esprit est là, l'Église ou bien le corps de Christ est sensible. Nous sommes sensibles d'être dirigés par le Saint-Esprit, car nous avons l'habitude d'écouter le Saint-Esprit. Un jour, on ne va pas vouloir aller de ta manière. On saurait se faire. Le Saint-Esprit guide tout. L'Église laisse le Saint-Esprit tout le temps guider leurs actions. Alors, je vais aller. Tout ça, j'ai parlé de ça. Parce que si nous laissons derrière le Saint-Esprit, malheureusement, tout ce qu'on va faire, ce sera humain. L'absence du Saint-Esprit occasionne des prédications intellectuelles. La communion devient organisationnée. Donc, comme si on peut organiser la fête dans l'entreprise, vous savez que les entreprises aussi, ils s'organisent. Donc, on continue à faire des choses, mais à la manière du monde, quand il y a l'absence du Saint-Esprit. La mission devient un effort humain. Malheureusement, on met beaucoup plus d'efforts, mais on trouve pas le fruit. Mais avec le Saint-Esprit, l'Église devient vivante, puissante et transformatrice. Alors, je vais finir par ici, par une conclusion. Oui, nous voulons développer notre Église. C'est mon souhait. Je pense que c'est votre souhait aussi. Mais je nous rappelle que le développement de l'Église ne dépend pas de nos moyens, de notre dépendance, mais de notre dépendance au Saint-Esprit, c'est-à-dire à notre obéissance au Saint-Esprit. Parce que la même puissance qui a agi à la Pentecôte, elle est encore disponible aujourd'hui. Oui, je sais qu'il y a des courants théologiques qui disent que tout ce qui s'est passé avec l'Église primitive, c'est fini avec la mort des apôtres. Il y a les gens qui ont cette croyance, mais nous ne sommes pas parmi eux. Nous savons que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Alors, ce qu'il a fait avec les apôtres, il peut le faire avec nous aussi, aujourd'hui. Et souvenez-vous que ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. C'est l'Éternel qui le dit. On ne peut rien faire si l'esprit n'est pas présent. Alors, comme la prière, je me suis basé sur le message que Jésus a dit quand il parlait aux gens et il voulait les enseigner, leur faire comprendre que Dieu est et leur donner tout ce qu'il lui demande. Si vous lisez dans Luc 11, 13, il est écrit, si donc, mes chers, que comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Et si je me suis posé une question, est-ce qu'on demande le Saint-Esprit? Oui, nous les méthodistes, Je ne veux pas changer notre croyance, mais nous croyons qu'une fois reçu, une fois converti, la Trinité vient à nous. C'est-à-dire Jésus est là et Dieu et le Saint-Esprit, oui. Mais des fois, c'est qu'il reste endormi à nous, on ne les laisse pas agir. Parce que s'ils sont à nous, oui, je suis d'accord, mais la question est de savoir pourquoi on ne fait pas comme les apôtres. C'est la question. La question, alors, moi, je trouve ça des fois que nous ne demandons pas. C'est comme si nous n'avons pas besoin du Saint-Esprit. Nous ne prions pas pour le Saint-Esprit. Nous ne prions pas que le Saint-Esprit vienne vivre dans nos vies. Nous prions souvent pour d'autres choses, des requêtes, mais il faut prier que le Saint-Esprit vienne à nous, habite en nous, éternellement, et qu'il commence à prendre le contrôle, à gérer tout en nous. Alors, je vais au dernier point, parce que le temps avance. La prière que je voudrais qu'on fasse en tant qu'Église qui veut grandir, alors nous demandons au Seigneur. Quand je dis une Église, c'est d'abord moi, c'est d'abord toi, qu'il nous remplit du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vraiment habite en nous. Parce qu'il habite en moi et qu'il habite à une autre, à une autre, à une autre, et que nous nous mettons ensemble, il y aura des miracles. Il y a pas de doute là-dessus. Nous prions pour les serviteurs qui soient conduits aussi par le Saint-Esprit. Et nous prions que tous les chrétiens, tous les croyants soient à l'écoute du Saint-Esprit. Oui, que nous soyons à l'écoute du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui connaît normalement le besoin et la volonté de Dieu. C'est lui qui sait. Le Saint-Esprit connaît mieux que nous le besoin du quartier, de son quartier et ses arrêts. Il connaît le besoin, il connaît quelqu'un qui est mort de telle péché, je ne sais pas dans quel coin où il se trouve. Donc nous, on se laisse faire. On soit comme les véhicules et le Saint-Esprit à nous va nous conduire à ces personnes qui sont dans le besoin. Alors que Dieu vous bénisse et je vous souhaite un bon dimanche. Ça, c'était ma prière pour moi, mais pour vous aussi. Donc, qu'on continue à vraiment prier, demander que le Saint-Esprit vienne à nous. Il ne va pas refuser, à moins que nous refusions de lui donner une demeure à nous. Priez pour les serviteurs qui soient aussi conduits par l'Esprit et qu'on soit à l'écoute de l'Esprit. Alors, bon dimanche, que Dieu vous bénisse.